Tout à fait. Actuellement, ce sont quasiment un millier de soldats qui sont perdus par jour. Et donc, c'est une perte à laquelle la Russie n'est pas sensible du tout. Alors que du côté ukrainien, on le répète, s'ils ne recrutent pas les jeunes, c'est pour préserver la jeunesse ukrainienne pour l'avenir de l'Ukraine. Alors que pour la Russie, à long terme, les pertes actuelles vont être très dommageables pour la Russie.
Ben voilà, vous le mentionnez bien d'ailleurs, c'est ça. Les jeunes Ukrainiens ne vont pas sous les drapeaux. Là, c'était jusqu'à l'âge, on pouvait être conscrit à partir de 27 ans. Là, on baisse ça à 25 ans. Mais les plus jeunes sont pour l'instant préservés du service sous les armes.
Oui, exactement. Et c'est une précaution que prend l'Ukraine pour préserver l'avenir de ce pays qui a de gros problèmes démographiques avec un taux de fécondité extrêmement bas et une évaporation de la population pendant la guerre qui était partie, une partie vers la Russie et d'autres vers l'Europe.
Général Trinquant, vous avez vu comme moi les réactions du Kremlin là, lorsque le vote de la Chambre des représentants, qui était la première étape nécessaire pour conduire au déblocage des 60 milliards, là, s'est fait. Ce vote-là a été positif durant le week-end. Et tout de suite, le Kremlin, là, qui sait très bien que la suite du projet sera avalisée aujourd'hui par le Sénat américain, a dit « Ben écoutez, tout ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter le nombre de morts ukrainiens. » Alors, une espèce d'attitude je m'en foutisme, mais est-ce que vous croyez que le Kremlin est inquiet par ce nouveau développement?
Oui, je pense que derrière les messages rassurants, il y a une inquiétude, parce que ça veut dire que sur le long terme, l'Europe comme les États-Unis décident de soutenir l'Ukraine. Et donc, la Russie va essayer de mettre l'accélérateur là pendant cette période pour obtenir une victoire. Son but étant que aux élections de novembre, ce soit le candidat Trump qui soit élu, mais on voit que même lui a donné son accord au vote qui s'est passé avant-hier. Donc l'inquiétude doit être grande.
Bon, il y a un historien russe qui est en exil, il s'appelle Sergueï Medvedev, et il y a une déclaration qu'il a réalisée là, dans les derniers jours qui a fait beaucoup jaser. Il a dit, lui, essentiellement, qu'une confrontation militaire entre l'Occident et la Russie sera inévitable en raison des suites de la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est un scénario qui est trop catastrophe?
C'est un scénario possible. Il y a déjà confrontation, mais dans le domaine du cyber, de la communication, et il n'y a pas de confrontation directe. Mais il est certain que si la Russie venait à avancer, j'allais dire en direction de Kiev, les Occidentaux pourraient pas rester les bras ballants. Et donc, je pense que c'est un aspect dissuasif que la Russie doit prendre en compte. Elle n'a pas envie de se heurter à l'OTAN, ni à l'Union européenne, elle n'en a pas les moyens. Mais elle peut essayer de contourner cette attaque frontale par des attaques plus indirectes, comme par exemple en Moldavie. Et la Moldavie, je rappelle, est sur la frontière de la Roumanie, pays de l'OTAN, ou bien à Kaliningrad, dans la Baltique, dont on sait que c'est une enclave qui est au cœur de l'Europe. Donc je pense que la Russie, ce sera plutôt des moyens détournés qu'une attaque frontale qui ne serait pas en sa faveur.
Bon, on voit aussi que les pays européens là ne baissent pas la garde. Hein. S'il y a eu une certaine fatigue là envers l'effort de guerre ukrainien aux États-Unis, puis on l'a bien vu avec le temps qu'il a fallu avant qu'on débloque ces milliards de dollars, on voit que dans d'autres pays, le discours est très différent. En Pologne, par exemple, on évoque maintenant la possibilité d'accueillir sur le territoire polonais des armes nucléaires. La Norvège dit qu'elle va augmenter de manière significative sa contribution qui, en termes per capita, était déjà très élevée en faveur de l'Ukraine. Donc, en Europe, on continue de jouer ça très, très serré.
Ah oui, non, mais en Europe, il y a certainement un sentiment de danger rapidement. L'Ukraine est un peu le front avancé de l'Europe et les Européens en sont convaincus, même si, comme vous le savez, il y a des élections dans un mois et demi en Europe, pour le Parlement européen, et c'est paradoxalement, dans beaucoup de pays comme la France, les listes qui sont pro-Poutine qui sont en tête. Enfin, on n'est pas arrivé au bout de la campagne électorale, et il faut espérer que les électeurs vont se réveiller.
Général Trinquant, vous et moi, on a parfois évoqué des scénarios pour l'avenir, et si on se livrait aujourd'hui à cet exercice, je vous demanderais deux analyses. Là. Si, par exemple, on se reparle dans, par exemple, 3 mois, ça serait quoi le meilleur scénario pour l'Ukraine et ça serait quoi le pire scénario pour l'Ukraine?
Alors, le meilleur scénario pour l'Ukraine serait que l'offensive russe se soient heurtés à la défense ukrainienne qui n'ait pas pu progresser et qu'ils aient subi beaucoup de pertes. Le pire scénario pour l'Ukraine serait que son réseau défensif ait été enfoncé et que les Russes soient capables de progresser en direction de Kiev.
Est-ce que vous attendez à des déblocages importants dans un sens ou dans l'autre durant cette période de 3 mois où ça va être plus long avant que les lignes de front bougent vraiment dans un sens ou dans l'autre?
Moi, je crois que c'est après l'été qu'on verra les effets. La météo est importante, bien sûr, mais les moyens mis en œuvre aussi sont importants. Et je ne crois pas, les Russes actuellement grignotent du terrain, mais ne gagnent pas vraiment beaucoup de terrain et perdent beaucoup d'hommes. Donc, si vous voulez, à terme, ça épuise beaucoup leurs forces.
Général Dominique Trinquant, vous êtes l'ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies. Merci pour ces éclaircissements.
Merci beaucoup à vous.
Bonne journée, à une prochaine. Au retour, Marie-Ève Tremblay nous présente un jeune homme qui a décidé de partir 40 jours en voyage sans téléphone.
Le menu du midi. Votre émission d'information.
Pourquoi on prendrait pas cette année-là de secondaire 1 de révision, puis qu'on ferait pas de la matière vue normalement en secondaire 2, puis juste décaler, puis comme ça, on pourrait garder nos 50 secondaires, puis passer directement à l'université.
On pensait que ça serait le fun, Facebook, puis on se lance là-dedans sans trop réfléchir, puis là, après, on s'aperçoit que sur Facebook, il y a de l'intimidation, il y a de la fraude, il y a des disputes, il y a des complots. C'était le fun, Facebook, au début, hein? Ben là, ça l'a encore, mais ça l'est un peu moins.
Le meilleur russe du repêchage, Ivan Demidov, son contrat dans la KHL vient échéance en 24-25.
Okay, ça
donc, l'été
bien.
Prochain. Donc, c'est comme si on repêchait un joueur de la Ligue canadienne de hockey. Mettons que le Canadien repêchait Caden Lidstrom et qu'on le retournait dans les juniors, ben, il serait pas disponible avant la saison 25-26.
Okay.
C'est la même chose pour Ivan Demidov. Puis, en plus, il a exprimé son désir de venir jouer en Amérique du Nord. Ça ne restera pas effoiré à la maison. À TV.
C'est à ça que tu parlais, là.
Du lundi au vendredi dès midi.
Réfrigération GRL vous offre ses services en installation, réparation, l'entretien de vos systèmes de réfrigération commerciale, climatiseurs et thermopompes. Réfrigération GRL vous invite à profiter de notre promotion sur les produits Mitsubishi Electric. Contactez-nous dès maintenant pour une soumission et sauvez sur l'installation de votre thermopompe. Pour tout besoin réfrigération, faites confiance à notre équipe d'expérience qui couvre le territoire de Rimouski, Matane et Rivière-du-Loup. Réfrigération GRL, 220 Avenue du Havre, Rimouski, 418-724-70. 7-11.
Ah, le printemps. Les journées qui allongent, le retour de la chaleur et des outardes. Ben oui. Mais qui dit printemps, dit aussi la vente étiquette rouge chez Toyota. C'est l'occasion parfaite pour profiter d'offres intéressantes sur une sélection de Camry, Tundra, BZ4X et d'autres modèles. Mais ne rêvez pas trop longtemps, parce que Phil la marmotte a prédit que la vente étiquette rouge n'allait pas durer éternellement. C'est bien connu que Phil, il se trompe jamais, hein? Visitez achetermatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
Le club de golf du Vic propose une nouvelle tarification dynamique et des prix à la baisse. Notamment, un rabais de près de 300$ sur un abonnement de saison pour les actionnaires qui font un retour. Réputé comme l'un des plus beaux au Québec, le parcours Bicois répond aux attentes les plus exigeantes. Voiturettes, boutiques, restauration et bars sont au nombre des services offerts. Le Vic, une passion qui s'exprime dans un décor enchanteur depuis 92 ans. Plus d'infos au www.clubdegolfvic.com.
Vous écoutez CFIX 93.3 qui diffuse également à Rivière-du-Loup à la fréquence 103.1.
Au réseau Cogeco, vous écoutez sans réserve.
Sans réserve.
Parce qu'il y a toujours une solution. Voici Marie-Ève Tremblay.
Marie-Ève, tu nous amènes de la très belle visite en studio.
Oui, de la visite parce que y a un jeune qui m'a contacté, qui a décidé de partir en voyage 40 jours sans téléphone cellulaire et je trouvais ça tellement intéressant parce que on parle de plus en plus des effets néfastes des écrans dans nos vies. Puis il y a une certaine génération, la génération Z, qui est carrément née avec un téléphone dans les mains. Emmanuel Langlois, lui, a 21 ans, il est avec nous en studio. Je l'ai invité pour venir raconter un peu d'où lui est venue l'idée de voyager sans téléphone et la
prise de conscience. C'est une idée tellement bizarre que même Jean-Luc Brassard a dit « Je vais être en studio, je veux écouter ça. »
C'est ça, je l'ai invité parce que toi, tu voyages beaucoup aussi, Jean-Luc. Mais Manuel est là, c'est sa première fois à la radio. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci énormément. Je suis très content d'être là. Je suis super excité.
D'où t'es venue l'idée de partir comme ça en voyage? C'est à Hawaï où t'es allé.
Exact.
Et de partir sans ton téléphone.
Ouais. Hawaï, c'était une décision aussi sur le PIF. Je savais pas où je partais comme 5 jours avant de partir. Et j'avais besoin de partir. J'ai trouvé ces billets-là qui étaient pas si chers que ça. J'ai décidé de me lancer. Et puis, à peu près 2-3 jours avant de partir aussi, ben comme plusieurs moments, j'étais dans mon lit. Ce qui est arrivé, je me rappelle très bien la scène, j'étais dans mon lit et je regarde mon téléphone et je me vois à la troisième personne et je suis fâché. À chaque fois que ça arrive, je suis super fâché.
Qu'est-ce que tu regardais?
C'était sur Instagram, en train de regarder des Reels, tout le temps. Mais c'est tout le temps cette affaire-là. Puis je suis fâché contre moi parce que je me suis encore fait hypnotiser. C'est vraiment ce sentiment-là de se faire hypnotiser, tu sais. Puis de vouloir garrocher son sel le plus loin possible parce qu'il te prend tellement de temps. Puis c'est ça, puis de m'en plaindre à mon ami Timo le lendemain. Puis lui de me répondre, de me proposer l'idée de partir sans téléphone. Puis je savais pas trop si c'était une blague à la base, mais c'était comme, ben écoute, on va l'essayer. Puis c'était autant pour moi, pour voir ce que ça allait faire, que pour plein de gens, j'imagine, qui trouveraient peut-être ça intéressant et qui ont trouvé ça intéressant, j'imagine, aussi au cours de ce parcours-là.
En préambule, on entendait Philippe mentionner qu'à une époque, on avait des cartes routières, mais maintenant, on se sert beaucoup des téléphones pour s'orienter, même des fois, des téléphones pour prendre des idées d'hôtels, des suggestions des autres. Comment t'as fait? Comment tu t'y es pris?
Ben, c'est ça, Google Maps, c'était plus une option. Puis les cartes non plus, j'ai comme voyagé d'une façon un peu spéciale dans le sens où j'avais rien préparé. Je suis parti avec mes horaires de bus pour me rendre à l'aéroport, mon numéro de confirmation de vol et peut-être comme 2 jours dans mon hostel où j'étais supposé rester. Fait que j'avais à peu près rien, tu sais, j'avais rien de prévu. Fait que je pars là-bas puis j'avais pas de carte non plus sans Google Maps. C'est vraiment, le principe de ce voyage-là, c'était d'avoir du temps. Puis c'était vraiment à 100% ça, c'était de s'abandonner à n'importe quoi qui allait arriver. Puis ben, ça a été formidable. Fait que j'ai vraiment pas, tu sais, dans le texte que j'ai écrit, que j'ai envoyé à Mme Tremblay, j'ai pas ouvert Google Maps une seule fois, puis j'ai pas regardé une seule fois des palmarès de trucs à faire à Hawaï. J'étais vraiment juste parler aux gens. Puis les gens, ils vont te raconter, là, ce qu'il y a à voir.
Tu demandais aux locaux
exact.
Où aller. Puis, est-ce qu'ils étaient généreux? Bien non, des fois, ils veulent protéger des endroits secrets, mais est-ce qu'ils étaient généreux de leurs suggestions?
Ben, j'imagine que ça doit arriver des gens qui sont un peu, qui gardent jalousement leurs secrets, peut-être des fois avec raison, parce que quand il y a plein de touristes qui arrivent là, ben, on commence à perdre le contrôle un peu. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est que les gens étaient super généreux. Mais encore une fois, tu arrives avec le sourire, puis t'es ouvert d'esprit, puis les gens, ben, ils vont te montrer le monde, là, vraiment. Ben, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a une fois, je sais pas si on a le temps de raconter des
choses. Ouais, vas-y.
Mais ouais, il y a une fois où, on faisait Road to Hana à Hawaï, qui est une route un peu mythique, qui est super belle dans la jungle. Et puis, on s'est arrêté à un stand de pizza à un moment donné, puis c'est vraiment ça, avoir le temps, tu sais, puis on a commencé à parler à Steve qui faisait de la pizza. Et lui, sa vie, il avait 34 ans, puis sa vie à lui, c'était de faire de la pizza le matin, puis le soir, il allait surfer. C'est simple. Et c'est un des hommes les plus heureux que j'ai croisé de ma vie. T'sais.
Il faisait du surf, il allait surfer.
Tous les après-midi, c'était ça. Puis c'est ça. Puis là, lui, il nous raconte qu'il finit de travailler à 4 heures, puis là, il est 1 heure à ce moment-là, puis on lui demande, ben. Puis il nous dit, dans le fond, il nous dit, si vous attendez ici jusqu'à 4 heures, je vais vous amener voir tout ce que vous voulez. J'ai pu vous montrer où j'habite. Lui, il habitait dans la jungle. C'était un vrai Hawaïen de génération. Et puis, on était comme, mais écoute, on peut pas trop rester jusqu'à 4 heures. Est-ce que ça tente de me dire tout de suite? Puis il était comme, mais il a réfléchi 2 secondes, puis il était comme, OK, on y va. Puis ça a fini qu'il nous a amené dans son espèce de maison dans les arbres où il y avait, tu sais,
wow.
Sa chute personnelle à lui, où on faisait du, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais on faisait du cliff jumping.
On sautait de la falaise.
Exact, on sautait de la falaise, exact. Et, tu sais, alors qu'on pensait que c'était fini, on a plein de gratitude, on exprime notre gratitude, puis il veut nous en redonner plus tout le temps, tu sais, puis il nous a ramené une.
Penses-tu que ces moments-là seraient arrivés si tu avais eu ton téléphone?
Ben. Je pense que non, mais tu sais, cette journée-là, j'étais avec des gens qui avaient leur téléphone. Mais c'est une espèce de... Le fait que j'arrive sans téléphone aussi, je pense que ça incitait vraiment les gens à utiliser le moins possible leur téléphone. Puis c'était pas que je leur mettais dans la... Tu sais, c'était pas que je leur mettais dans la bouche, genre je les... C'était pas que j'essayais de les convertir ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste que c'était plus le fun sans téléphone. Tu sais, on prenait nos journées, on allait nulle part, on n'avait aucune place où aller en particulier. Puis on y allait, puis je veux dire, tu sais, quand t'as pas d'attente, puis tout
est... Et tu t'es pas ennuyé de ton téléphone, des fois?
Je me suis pas ennuyé une seule fois de mon téléphone.
Qu'est-ce que t'as fait pour les photos?
Ben
oui.
Exactement. Ben, ça, j'en ai parlé. Il y a quelques amis de moi qui ont pris des photos. Puis il y a quelques trucs aussi. Ça, c'est une des choses qui est un peu ambiguë dans ma tête, à savoir si je le referais de la même façon. Moi, je trouve que c'est assez les photos que j'ai de mes amis. Puis si j'ai besoin de photos de Hawaï ou pour montrer des places que j'ai visitées, tu sais, je me suis dit que j'allais sur Google. Les photos que je voulais vraiment, que j'aurais voulu prendre, c'est des photos des visages des gens. Mm-hmm. Juste pour en parler après, parce que c'est des gens qui avaient été importants pendant mon voyage.
Est-ce que justement, là, des fois, moi j'en prends des photos avec mon téléphone, comme j'en prends trop, là, j'oublie puis ils traînent dans mon téléphone. Est-ce que le souvenir